Comment allez-vous? Sportivement? J'ai regardé l'écran. Je dis ça parce que ce matin, j'ai cru voir certaines mines un peu tristes. J'imagine les écoliers. C'est la fin des vacances. Eh oui, désolé, c'est comme ça. Il y en a qui reviennent de congé. Eh oui, c'est fini. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez pris le temps de profiter de ces temps que le Seigneur mettait à votre disposition pour vous ressourcer. Et je pense à ceux qui n'ont pas eu cette possibilité. Je prie en tout cas que Dieu renouvelle vos forces. Le passage qui servira de support au message de ce matin se trouve, comme vous le voyez derrière mon dos normalement, oui, en 2 Pierre, dans le chapitre 3. Au début de ce chapitre, l'apôtre Pierre, pardon, nous rappelle une bonne, je dirais même une très bonne nouvelle. Jésus revient et il revient bientôt. Alors oui, il y a des détracteurs, il y a des moqueurs, comme le dit lui-même l'apôtre Pierre dans ce même chapitre, qui nous disent que il est un peu long ce bientôt. Il est où votre sauveur qui revient bientôt? Et en effet, on ne va pas se mentir, hein, le livre d'Apocalypse qui nous dit que Jésus revient bientôt a été écrit il y a plus de 2000 ans. Je suis convaincu que si à la fin du message, je vous dis que je pars en voyage et que je reviens bientôt, vous attendez à me voir avant 2000 ans. Ce sera compliqué. Mais malheureusement, pour eux, ces moqueurs oublient une chose. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et il y a quelque chose qui ne change pas. C'est que ce soit demain, que ce soit dans 1000 ans, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Qui y croit dans la salle? Vous y croyez? Que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt? Nous y croyons. La parole nous dit qu'il est venu une première fois, et nous le savons, qu'il nous a sortis des ténèbres dans lesquelles nous étions, empêtrés dans ces ténèbres, dans cette boue. Il s'est sacrifié à notre place. Il a pris notre péché et il a crucifié ce péché à la croix. Par son sacrifice, il a établi une alliance, une nouvelle alliance entre notre Dieu et nous. En lui, nous avons une toute nouvelle vie, en Dieu, par Dieu, pour Dieu. Et il est allé plus loin. Au bout de 3 jours, il est ressuscité. Et il a pu dire qu'il s'en va nous préparer une place auprès du Père. Et il revient. Mais certains vont nous dire, mais ça commence à être long. Qu'est-ce qu'il fait, votre sauveur? Qu'est-ce qu'il attend? N'est-il pas un petit peu en retard? L'horloge divine est-elle tombée en panne? Bien sûr que non. Mais son amour pour toute l'humanité est infiniment grand. Notre Dieu fait simplement preuve de patience à notre égard, car il ne veut qu'aucun, que personne ne périsse, mais que tous nous parvenons à la repentance, la conversion. Alors, je repose la question. Quels sont ceux qui, dans cette salle, croient au retour de Jésus-Christ? Je vais voir les doigts levés, non pas justement punir ceux qui ne lèvent pas la main, mais je vais repérer justement quels sont ceux qui sont les plus impactés par le message qui va suivre. Parce qu'à ceux qui ont levé la main, j'ai une question encore qui va suivre. Attendez-vous ardemment son retour? Souhaitez-vous qu'il arrive aujourd'hui, maintenant? Attention. Parce que déjà, je n'ai pas entendu tous ceux qui ont levé la main dire oui. Parce que là, on est plus hésitant. On veut bien qu'il revienne, mais s'il peut attendre cet après-midi, voire demain, le temps de ranger 2, 3 trucs. Donc la question se pose, sommes-nous prêts à ce qu'il revienne maintenant? Sérieusement, réfléchissons. Notre Seigneur arrive bientôt, sommes-nous prêts? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que souhaite-t-il voir à notre retour? Comment préparons-nous son retour? Ce matin, je vais partager avec vous à travers la parole de Dieu, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, quelques éléments de réponse. Parce qu'en effet, à ceux qui pensent et qui sont convaincus qu'être sauvé, c'est l'objectif à atteindre, et que c'est bon, tout est fait, c'est les vacances spirituelles, vous allez être déçus. Vous allez vite vous rendre compte à travers le passage que nous allons lire que attendre le retour de Christ, c'est tout un programme. Préparez-vous parce qu'il va falloir se retrousser les manches. Comme le titre le disait, il va y avoir du sport. Avant de débuter, je veux remettre ce moment entre les mains de notre Dieu pour sa parole. Seigneur, vraiment, je veux te remercier pour ta parole. C'est notre guide, c'est notre lumière, c'est elle qui éclaire nos sentiers, c'est elle qui nous permet de marcher et de connaître ta volonté. Père, je te prie, Seigneur, de nous faire grâce de la présence de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions la comprendre, afin qu'elle puisse nous pénétrer et que nous puissions nous hâter à la mettre en pratique. Père, rends-nous attentifs à ta parole ce matin. Amen. Alors ce matin, nous allons dérouler ce que j'ai appelé le programme sportif spirituel du chrétien. Ce chrétien qui, normalement, attend ardemment le retour de son Seigneur. L'objectif de ce programme nous est donné donc par l'apôtre Pierre, en 2 Pierre, chapitre 3, que je vous invite à prendre dans votre Bible, 2 Pierre, chapitre 3. Allez vers la fin, remontez, Apocalypse, Jude, 1, 2, 3 Jean, et vous serez pleinement dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 14. Mais ne soyez pas trop vite. Trop pressé. On va lire petit à petit. Je vais vous faire la surprise petit à petit. On va découvrir petit à petit ce programme sportif spirituel. Alors, commençons juste avec le verset 14. Voyez-vous, je vous demande de chercher et moi, j'oublie de chercher. Alors, 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. Dans la version Semeur que j'ai, je lis ceci. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts. Je m'arrête là. Faites tous vos efforts. Quand je vous dis qu'il va y avoir du sport, ça ne va pas être tranquille, relax. Ce ne sera pas des vacances. Dans d'autres versions, certains ont pu lire « Appliquez-vous ». Ce programme que nous allons voir ce matin doit être pris au sérieux. Ce programme ne pourra pas être négligé pour un chrétien qui se dit impatient de voir son Seigneur. Combien d'entre nous ont déjà voulu se mettre au sport? Ils n'ont jamais commencé. Ou bien certains ont peut-être commencé et puis en cours de route se sont arrêtés. Je vais vous dire ce matin que pour notre programme, ce que nous allons voir, il n'est pas possible que le chrétien puisse passer à côté. Tout chrétien digne de ce nom qui attend impatiemment le retour de son Seigneur est amené à faire tous ses efforts. Pour être, je pourrais dire, spirituellement costaud. Qu'est-ce que cela veut dire spirituellement costaud? Lisons la suite du verset 14. Je relis. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts. Pourquoi? Pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Ce qui compte pour nous, chrétiens, c'est de demeurer agréable aux yeux de notre Dieu. Alors oui, effectivement, en Colossiens 1, verset 22, on nous rappelle que réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Christ, nous sommes effectivement déjà saints, irréprochables et sans tache devant le Père céleste. Corinthiens chapitre 1, verset 22 qui nous le dit. C'est vrai, c'est le cas. Mais il faut tout de même que notre posture actuelle reflète cette réalité. Faisons-nous tous nos efforts pour paraître purs et irréprochables aux yeux de notre Dieu. C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Faisons-nous tous nos efforts, réellement. Posez-vous, posons-nous la question. Vous savez, tout sportif a besoin d'un cadre pour s'épanouir, pour progresser. Vous allez voir qu'en fait, il en est de même pour le chrétien. Pour paraître pur et irréprochable, il a besoin d'un cadre. Et le verset nous donne ce cadre. Pour le chrétien, il est indispensable de demeurer dans la paix. C'est ça notre cadre. Le verset nous dit bien, dans la paix. Et vous allez me dire que dans notre réalité de vie, ce n'est pas toujours évident, soyons honnêtes, de rester constamment dans la paix. Et pourtant, le chrétien a tant de raisons d'être dans la paix. La première raison que je pourrais vous citer, c'est la plus simple. C'est que nous sommes sauvés. Jésus nous a donné la vie éternelle. En Jean 10, verset 28, « Jamais nous ne périrons. Personne ne pourra nous arracher de sa main. » Nous a rappelé aussi Frédéric. Qu'y a-t-il de plus rassurant, de réconfortant de savoir que nous sommes sauvés? On va traverser certes des moments difficiles dans notre vie, mais il y a une vérité qui est claire. Nos péchés sont pardonnés, nous sommes sauvés. Pourquoi le chrétien alors ne serait-il pas en paix? Une deuxième raison, Jésus revient bientôt. Alors la question demeure la même, est-ce que nous le croyons sincèrement? Avons-nous hâte de voir notre Seigneur revenir bientôt? Si cette vérité, nous l'avons dans notre cœur tous les jours, nous devrions être constamment en paix. Une place m'est réservée auprès du Père. Que demander de plus? Merci Seigneur, je reste en paix. Une difficulté demeure néanmoins, c'est vrai. Notre paix, malheureusement, ne dépend pas toujours de nous. Notre paix dépend forcément de notre relation avec les autres. Je pourrais mal dire que je suis en paix si ce matin je me suis fâché avec mon épouse. Non, je ne serai pas en paix. Ma paix dépend de ce que je vis avec les autres. Et Jésus dira ceci en Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Matthieu chapitre 5, verset 9. L'apôtre Paul va ajouter ceci, autant que possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. Pas facile. Je vous ai dit qu'il y aurait du sport. Pourtant, c'est ainsi que les enfants de Dieu doivent se distinguer des autres. Il y a moins de mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, notre pasteur, à travers son message, nous faisait remarquer que pour prendre du volume, le muscle devait passer par des périodes d'exercice intenses qui vont provoquer des micro-déchirures. Vous savez quel est l'endroit le plus propice aux micro-déchirures spirituelles du chrétien? Où notre paix est souvent mise à mal? Je vais vous étonner, mais c'est souvent dans l'église elle-même. Effectivement, il serait facile d'être en paix avec quelqu'un que je vois une fois l'an. Je le vois une fois l'an, je peux faire un effort pour ne pas me fâcher avec lui. Mais c'est plus difficile avec les personnes que je vois de manière coutumière. Mardi, je le vois. Jeudi, je le vois. Dimanche, je le vois. Sa tête ne me revient pas. Compliqué, hein? Que puis-je faire? Je pourrais l'éviter. Mais éviter quelqu'un, ce n'est pas vivre en paix. Vraiment, si c'est le cas de figure te concerne, si ce cas de figure te concerne, il n'y a qu'une chose à faire. Si ça nous concerne, nous n'avons qu'une chose à faire. Le Seigneur nous dit, faites tous vos efforts pour paraître pur et irréprochable. Alors oui, certains, vous avez raison, vous me dites que c'est chaud, Nicolas. C'est chaud, sa tête ne me revient pas. Dès qu'il ouvre la bouche, je pète un câble. Oui, c'est chaud. Mais constatez, dans le verset 15, juste après, dans le verset 15, on peut lire ceci. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Je veux juste m'arrêter sur deux mots, trois mots, on va bien compter. Frère bien-aimé. Pierre désigne Paul comme son frère bien-aimé. Et pourtant, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, Paul s'est permis de s'opposer ouvertement à Pierre. Pierre, disciple de Christ. Pierre qui a vécu aux côtés de Christ. On pourrait se dire, mais qui est Paul? Il n'a pas connu Christ. Il se permet de s'opposer ouvertement à Pierre. Je pourrais dire même, permettez-moi l'expression, il a engueulé Pierre devant tout le monde. Et malgré cela, Pierre l'appelle mon frère bien-aimé. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre en paix. Et le premier exercice se trouve au sein de l'Église. Nous sommes appelés à faire tous nos efforts pour demeurer dans la paix. Enfin, je terminerai avec une dernière raison pour que nous puissions demeurer en paix. C'est la nature de notre Dieu que je qualifierais de coach sportif pour garder l'image du sport. Car oui, je vous rassure, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas appelés à nous débrouiller tout seuls. Nous avons un coach. Et notre coach, c'est le Dieu d'amour et de paix. Il nous accompagne tout au long de notre programme. En 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il nous est dit ceci. Un verset que nous connaissons parce que nous avons travaillé ce passage. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, quand nous faisons nos efforts, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, Dieu lui-même vous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Donc, pas de stress. Nous n'avons pas derrière nous un entraîneur pour nous crier dessus. Plus vite, pousse, plus fort. Non, on a un Dieu patient, doux, aimant. Il nous dit juste, fais l'effort, essaye. Moi, Jésus-Christ, ton Seigneur, je ferai moi-même le reste. Alors soyons en paix, tranquille, zen. Notre Seigneur s'occupe de tout. Apprenons à nous reposer sur lui. Alors oui, je vous parle de sport et on ne va pas se voir la face. Dans le sport, il y a des risques de crampes, de fractures, de lésions, de blessures. Constatez que ça arrive souvent aux sportifs qui décident de faire tout par lui-même. Et puis il met le coach de côté. Constatez que ça arrive souvent aux sportifs qui écoutent les autres et qui n'écoutent pas son entraîneur. Eh bien, je pense qu'il en est de même pour le chrétien. Au verset 16 et 17, que je vous invite maintenant à lire, nous allons voir quels sont les risques de blessure du chrétien. Versets 16 et 17. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres, il parlait de l'apôtre Paul, où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Ça, c'est un passage, je ne vais pas lire ça quand même. Quant à vous, verset 17, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Pierre nous met en garde. Il y a à côté de nous des faux entraîneurs, des faux sportifs qui sont persuadés de tout savoir et qui distillent autour de nous ces mauvais conseils. Que ce soit par ignorance, par malveillance, faisons attention, parce que le résultat va demeurer le même. L'échec du chrétien, la perte de notre position, cette position que pourtant le Seigneur nous a promis. Ne serait-ce pas terrible? Ne pensez-vous pas que ce serait vraiment horrible d'avoir fait tous vos efforts et que quand le Seigneur arrive, il puisse vous dire « Je suis désolé, tu t'es trompé en quelque part. » Ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Est-ce que ce ne serait pas catastrophique? Faisons bien attention au terme que l'apôtre Pierre emploie. Il nous invite à prendre garde, à ne pas nous laisser entraîner, de nous laisser emporter dans d'autres versions. Ces mots laissent une impression de mouvement collectif. On a l'impression que c'est toute une vague qui emporte. Je ne pourrais pas être emporté par un petit filet d'eau, ce n'est pas possible. Mais par un courant violent, oui, je peux être emporté. Donc, faisons attention. Cette vague est en train d'entraîner beaucoup de chrétiens. Prenons garde que cela ne nous arrive pas. Et j'irai plus loin. Prenons garde à ne pas devenir à notre tour ces personnes ignorantes et mal affermies. Prenons garde à ne pas devenir ces personnes qui sont convaincues de tout savoir. Seigneur, garde-nous de tout orgueil et de toute prétention. Combien de chrétiens sont convaincus de mieux comprendre la parole que les autres, se lancent dans leur propre raisonnement, convaincus d'être dans le vrai. Les chrétiens que nous sommes doivent aborder ce programme avec un esprit disposé à l'appliquer, comme l'Esprit de Dieu lui donne de le comprendre, et non comme nous avons envie de le comprendre. Et cette compréhension ne peut se faire par nous-mêmes, mais notre coach sportif, parfait, divin, notre Dieu, nous a laissé quelque chose, son Saint-Esprit. Qui mieux que le Saint-Esprit peut comprendre la pensée de Dieu? Attention à ne pas négliger le Saint-Esprit. Je terminerai avec la progression du sportif. Tout sportif fait des efforts pour progresser, sinon ce serait inutile. Mais c'est l'invitation de l'apôtre Pierre dans le verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Il nous dit ceci. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre programme sportif spirituel repose donc sur deux fondements. La grâce, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout ce dont nous avons besoin, même durant les moments les plus difficiles. L'apôtre Paul a vécu des moments difficiles. Le Seigneur a pu lui dire, « Ma grâce te suffit. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. La grâce, c'est elle qui fortifie le croyant. Vous pouvez le lire en 2 Timothée, chapitre 2. Oui, c'est la grâce qui nous fortifie. C'est la grâce qui nous affermit. Hébreux, chapitre 13, verset 9. Et le deuxième fondement que nous cite l'apôtre Pierre, la connaissance de notre Seigneur. Le chrétien a besoin de connaître Jésus pour devenir plus fort, spirituellement parlant, bien sûr. Le chrétien a besoin de prendre le temps de méditer la parole. Ainsi, il se protège des mauvaises langues, de ces personnes ignorantes et mal affermies. Comme David, cherchons ardemment la présence de notre Dieu. Connaissez-vous le psaume 27 de David? Pas tous? Vous connaissez peut-être le chant qui lui inspirait. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je voudrais admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Est-ce que nous désirons ardemment passer du temps avec notre Seigneur? Réfléchissons et répondons sincèrement. Ne nous voilons pas la face. Bien-aimés, la question de savoir si nous devons nous mettre au sport, spirituellement parlant, j'entends bien, cette question ne doit pas se poser. C'est une obligation. En Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul développe la même idée que l'apôtre Pierre. En fait, j'aurais même pu prendre ce passage et je pourrais faire le même message. Je vous invite à lire ce chapitre à la maison. Vous verrez qu'en Philippiens 2, l'apôtre Paul ne nous invite pas à profiter du salut. Ce ne sont pas ses termes. Il nous invite à faire fructifier notre salut. Ça change tout. Cela signifie valoriser, développer ce salut. Mais attention, faisons bien attention. Cela ne veut pas dire que nous sommes appelés à faire augmenter notre salut. Le salut demeure un don gratuit. On l'a reçu par la foi. Ce n'est pas un résultat pour nous récompenser. Nous l'avons, ce salut. Faire fructifier son salut, c'est le vivre tous les jours. Et en effet, en Philippiens chapitre 2, quand vous allez le lire à la maison, je vais vous lire juste le verset 15. Il nous est dit, « Pour être irréprochable et pur, ça vous rappelle quelque chose, c'est ce que nous avons lu en 2 Pierre. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Est-ce que nous brillons comme des flambeaux dans le monde? Notre Seigneur nous invite à faire tous nos efforts pour cela. Et en Philippiens, verset 13, on ajoute ceci. C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Bien-aimés, nous participons ensemble à un sport d'équipe, si je puis dire. L'équipe du CED, l'Église en général, perd souvent des points lorsque ses joueurs se reposent sous leur laurier. Alors pour finir, permettez-moi ces quelques questions et conseils. Ce matin, posons-nous la question, sincèrement. Les élèves font leur entrée, faisons notre rentrée spirituelle ce matin. Sommes-nous prêts à faire tous nos efforts dans notre cheminement spirituel? Faisons-nous réellement tous nos efforts? Dans la version de la Martin Bible, il est dit au verset 14, « Étudiez-vous à être trouvés de lui sans tâche et sans reproche. » Sommes-nous prêts à faire cette analyse de nous-mêmes? Et attention, ne faisons pas cette analyse tout seul. On ne verrait que ce qui nous plaît. Cette analyse, je vous appelle à la faire avec votre Seigneur, votre coach sportif. C'est lui qui a l'œil aguerri pour voir en profondeur dans votre cœur. C'est lui qui a la capacité de voir les faiblesses de chacun et de nous concocter le programme approprié. Ce matin, le Seigneur nous pose la question. Comment se trouve justement notre corps, notre cœur en ce moment même? Sommes-nous dans la paix? Je ne vous demande pas comment vous allez. On peut passer par des temps difficiles. On peut être triste, on peut être fatigué, on peut être inquiet et demeurer tout de même en paix, sachant que nous sommes sauvés et que notre Sauveur revient bientôt. Pour progresser, pas besoin de se doper, pas besoin d'anabolisant, non. Nous avons juste à profiter de la grâce, vivre de la grâce. Dieu nous a sauvés. Nous sommes sauvés. C'est tout ce dont nous avons besoin de savoir. Et parce que notre Seigneur nous a donné un objectif, être pur, irréprochable, gardons les yeux rivés sur l'exemple parfait, notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchons à le connaître chaque jour un peu plus, en passant du temps avec lui, en méditant sa parole, en étudiant cette parole. C'est ce que nous avons l'occasion de faire tous les mardis, les jeudis à 19h. Ne nous privons pas de ces moments. Être pur et irréprochable, c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est chaud. Oui, je l'avoue, oui, c'est chaud. Puisque le Seigneur nous appelle à faire des efforts, donc ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas chaud en fait. Ce n'est pas chaud parce que c'est Dieu qui fait tout le travail. Nous avons juste à nous reposer sur lui. Mais bien-aimés, notre Dieu nous a laissé son assistant, sans qui nous ne pourrons rien faire. Et alors que Dieu il a trouvé bon de nous laisser cet assistant, nous avons tendance à le négliger. J'en ai parlé plus tôt de cet assistant, le Saint-Esprit. Durant le mois de septembre, nous voulons prendre le temps de nous rapprocher, nous réconcilier, aller plus loin avec le Saint-Esprit. les messages durant les cultes du mois de septembre auront cet objectif, de nous sensibiliser à la présence du Saint-Esprit. Les jeudis à 19h, nous serons là pour découvrir que cette puissance est capable de faire des choses merveilleuses en chacun d'entre nous. Ne nous privons pas de ces occasions. Et parce que ces moments se préparent, nous voulons aussi prendre le temps dans le jeûne et la prière, afin que durant ce mois, rien ne puisse nous priver de la présence de notre Dieu et du travail que le Saint-Esprit veut faire en chacun d'entre nous. Donc durant 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, nous vous proposons de nous retrouver chaque matin pour les plus matinaux à 5h sur Zoom. Pour ceux qui sont plus à l'aise en soirée, on peut se retrouver ici à 19h. Ne passons pas à côté de ces moments. Dieu nous invite à faire des efforts. Peut-être qu'en ce mois de septembre, le premier effort que nous pouvons faire, c'est de nous montrer assidus à ces réunions, afin de laisser le Seigneur nous travailler. Alors, qu'en dites-vous? Sommes-nous prêts à faire des efforts durant notre marche spirituelle? Sommes-nous prêts, je pourrais dire, à faire tous les efforts pour y parvenir? Je le répète, bien-aimés. Je pose la question, mais la réponse devrait être automatique. Ce n'est pas optionnel. Tout chrétien qui attend ardemment le retour de son Seigneur est invité à faire tous les efforts pour demeurer pur, inébranlable devant son Seigneur. Je vais prendre le temps dans la prière pour terminer ce moment. Seigneur, je veux te remercier. Tu es ce Dieu parfait. Tu es ce Dieu 3 fois saint. Et malgré nos fautes, tu cherches toujours à établir une relation avec nous. Merci parce que c'est toi qui es venu vers nous. Nous n'avons rien fait et tu nous as ouvert les yeux. Mais tu nous invites, Seigneur, à tout faire pour te ressembler. Toi qui nous as amenés à faire partie de ta famille, pour avoir ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Tu nous invites à tout faire, Seigneur, pour te ressembler. Seigneur, je te prie de nous aider. D'abord, convainc-nous que cela est essentiel de faire tous nos efforts pour te ressembler. Je veux te remercier parce que tu ne nous laisses pas sans outils. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous laisses. Ce Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ta parole. Ce Saint-Esprit qui nous conseille. Ton Saint-Esprit qui nous conduit. Père, apprends-nous à entendre sa voix. Rends-nous dociles au son de sa voix et que nous puissions tout faire pour appliquer ce qu'il nous dit de faire. Père, je te remercie pour la période dans laquelle nous allons entrer. Que tu puisses œuvrer, que tu puisses toucher, que tu puisses impacter, afin que ton église du CED puisse passer un cap. Nous ne voulons pas stagner. Nous ne voulons pas rester comme nous sommes. Nous voulons aller plus haut et au-delà. Seigneur, je te remercie pour ton attention pour chacun d'entre nous. Viens travailler, viens agir en chacun d'entre nous, Père. Amen.